Pardonnez-moi madame, je cherche mon chemin. Ne riez-vous pas vu ce petit bout de rêve? Celui d'où je viens, j'y étais vraiment bien. Maintenant il me revient comme cette extase brève. Le soleil brillait fort et les oiseaux chantaient. Les gens savaient parler et surtout s'écouter. Je me souviens d'une ville au sourire bienveillant, où régnait dans les rues l'odeur de liberté. Bien sûr ni Dieu ni maître, mais un peuple tolérant. On a fait le sens de la responsabilité. Égalité des chances, les chats faisaient des chiens. On mangeait à notre faim et tout allait très bien.
Le bonheur est en le prix, alors cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est en le prix, alors cours-y vite, il va filer. Le bonheur est en le prix, alors cours-y vite, le bonheur est en le prix.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En direct sur Radio Saféréole, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Et bien sûr, podcastable sur le site n'importe quand, toujours et à toute heure. Avec Sophie au micro et Pierre à la technique. Eh oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Même si notre générique aujourd'hui a changé avec le printemps, on a eu envie de se renouveler. Et cette fois, c'est avec douche froide que nous commençons notre émission. Alors, une émission consacrée aux objets magiques. Bien sûr, il y a la fameuse lampe magique, mais il y a plein d'autres objets. Et pour commencer, un conte tzigane. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Martin. Martin avait abandonné le mode de vie de ses ancêtres qui était d'aller sur les routes. Et lui, il s'était placé comme valet de ferme. Son maître le nourrissait plus de coups de bâton que de pain blanc et de poulet. Alors, un jour, Martin en a eu assez. Il s'est dit, eh bien, quitte à avoir faim, autant être mon propre maître. Il a emballé ses maigres affaires dans un baluchon, il a mis le baluchon sur son dos et il a pris le chemin. Et marche loin. Et il était parti, il avait faim, il est arrivé au bord d'une rivière, et là, sur les cailloux du bord de la rivière, il a aperçu un grand poisson aux écailles argentées. Martin a pris le poisson, il s'est dit « Oh là là, le fameux repas que ça va me faire, je vais le faire griller, ça va être trop bon !» Le poisson, à ce moment-là, a regardé le jeune homme avec son œil de poisson, et lui a dit « Je suis le roi des poissons. Tu vas m'arracher une écaille et puis me remettre à l'eau. Et quand tu auras besoin de moi, il te suffira de brûler cette écaille et je viendrai t'aider. » Martin a hésité un peu, il avait vraiment très faim, c'était un très très beau poisson. Ah, finalement, il a arraché une écaille au poisson, il a remis le poisson à l'eau, l'écaille, il l'a mis dans son baluchon. Et il a repris son chemin. Et marche loin. Martin est arrivé dans la forêt. Il a entendu des piaillements. Il a regardé dans un arbre, il y avait un nid avec des oisillons. Et le long du tronc de l'arbre, un grand serpent était en train de se glisser en direction du nid. Martin a fait du bruit, ça a fait peur au serpent qui s'est enfui dans les fourrés. Et à ce moment, depuis le haut du ciel, un grand aigle est descendu. Il est venu se poser devant Martin. Il lui a dit « Je suis le roi des aigles. Tu as sauvé mes petits, je vais te faire un cadeau. Arrache-moi une plume et lorsque tu auras besoin de moi, il te suffira de la brûler et je viendrai t'aider. » Martin a remercié le roi des aigles, il lui a arraché une plume. La plume, il l'a mise dans son baluchon avec l'écaille du roi des poissons. Et il a repris son chemin, le ventre creux. Et marche loin. Et tout d'un coup, sur le chemin, il a vu arriver devant lui un être bizarre. C'était une fourmi, mais une fourmi qui avait la taille d'un homme et qui avait la tête d'un homme. Un homme avec de grands cheveux, une joue qui était rouge et enflammée, et l'être a fait signe à Martin avec sa patte de fourmi. Le jeune homme s'est approché, il a regardé dans la joue enflammée, il a vu une épine. Il a tiré sur cette épine et il a réussi à la faire sortir. Ah, je te remercie, a dit l'être au corps de fourmi et à la tête d'homme. J'avais cette épine dans la joue et moi, avec mes pattes de fourmi, je n'arrivais pas à l'arracher. Ah, tu m'as libéré, ça me faisait un mal épouvantable. Alors je vais te faire un cadeau. Arrache-moi un cheveu et si un jour tu as besoin de moi, il te suffira de le brûler et je viendrai t'aider. Martin a remercié l'être bizarre, le roi des fourmis. Elle a repris son chemin. Il avait de plus en plus faim. Son ventre gargouillait. Elle marche, marche, marche et marche, marche bien. Elle marche, marche, marche et marche, marche loin. Elle est arrivée à la ville, de la première maison de la ville. Sortait une odeur de nourriture trop appétissante. Et devant la maison, assise sur un banc, il y avait une vieille femme qui attendait tranquillement que son repas soit prêt. Le jeune homme s'est approché, il restait là, à respirer le bon fumet de cuisine. Bon, la vieille lui a souri, elle lui a dit « On dirait que tu as faim. Est-ce que tu veux partager mon repas ? Ce sera moins triste pour moi que de manger seul. » Oh ben Martin, il s'est pas fait prier, hein. Il a accepté tout de suite. Hein, le repas a été prêt et ils sont attablés. Oh, c'était bon. Et puis, en mangeant, la vieille femme lui a dit « À toi, toi tu viens pour la princesse. » « La princesse ? Il y a une princesse ici ? » « Eh oui, dans le château là-haut. » Oh ben Martin, hein, la dernière bouchée avalée, il a remercié la vieille et il a marché jusqu'au château. Et marche, 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 et marche, marche loin. Et marche, 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 et marche, marche bien. Le château était facile à trouver, il était tout en haut de la ville. Martin a frappé, il a dit « C'est moi, voilà, je viens pour épouser la princesse. » Eh ben vous croyez ça ? On l'a pas du tout mis dehors, au contraire, on l'a fait rentrer dans le château. On l'a conduit jusqu'à la grande salle du trône. Là, assise sur le trône, il y avait la princesse. Et la princesse était belle. La princesse était belle comme le soleil. Martin a senti son cœur s'emballer. Elle a regardé la princesse sans pouvoir proférer un seul mot. Hé, jeune homme ! La princesse lui a souri. Alors ? Qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Est-ce que tu voudrais m'épouser par hasard ? Oui. Ah. Eh bien, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais compter jusqu'à 100. Tu vas aller te cacher. Si demain à midi je ne t'ai pas trouvé, alors je t'épouse. Mais si je te trouve, alors tu auras 10 coups de bâton. Ben, d'accord. La princesse a fermé les yeux. Elle a commencé à compter. 1, 2, 3, 4. Martin est sorti de la salle du trône. Il a ouvert les 120 portes des salles du château, mais à chaque fois, il s'est dit, ben non, la princesse, elle va sûrement me trouver si je me cache là. Il est sorti dans le parc. Il a regardé derrière les 240 buissons, puis là aussi, à chaque fois, il s'est dit, ben non, c'est trop facile. Il a regardé derrière les 360 arbres. Oh, la princesse, elle est maligne, elle va me trouver. Puis il était là, au bord de la rivière du château. Et tout d'un coup, il s'est rappelé. Le poisson. Il a sorti de son baluchon l'écaille du poisson. Crac, il a craqué une allumette, il a fait brûler l'écaille. Et des profondeurs de la rivière du château est apparu le grand poisson aux écailles argentées. Tu m'as demandé ? Oui, il faudrait que tu m'aides à me cacher pour que la princesse ne me trouve pas. Eh bien, entre dans ma gueule, a dit le poisson, et il a ouvert une grande bouche, et Martin a sauté à l'intérieur. Hein, le poisson a disparu dans les profondeurs de la rivière du château. 98, 99, 100. La princesse a ouvert les yeux. Elle a cherché. Elle a cherché dans les 120 salles du château. Bien sûr, elle ne l'a pas trouvé. Ah! « Ce garçon est malin !» a dit la princesse. Puis elle est sortie dans le parc. Elle a regardé derrière les 240 buissons. Bien sûr, elle ne l'a pas trouvé. Ce garçon est très malin. Elle a regardé derrière les 360 arbres. Pas de trace du jeune homme. La princesse était contente. Elle adorait jouer à cache-cache. Mais elle avait un secret. Quand elle a vu qu'elle ne le trouvait pas, elle est rentrée dans son palais. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est assise devant son miroir. Et là, elle a pensé au jeune homme très fort. Elle a regardé dans son miroir. C'était un miroir magique. Elle a vu. Elle a vu dans les profondeurs de la rivière du château un grand poisson aux écailles argentées. Et de la gueule du poisson dépassait le pompon du bonnet du jeune homme. Elle savait où il était. Le lendemain à midi, le jeune homme s'est présenté tout fier. La princesse lui a souri. Elle lui a dit « Je sais où tu étais. Tu étais dans la gueule d'un poisson, tout au fond de la rivière du château. »
Ah bah oui. Martin triste a retroussé sa chemise pour recevoir les coups de bâton.
Attends, lui a dit la princesse. C'était quand même une bonne cachette. Je vais te laisser une seconde chance. Je vais compter jusqu'à 100. Tu vas aller te cacher. Si demain à midi je ne t'ai pas trouvé, je t'épouse. Mais si je te trouve, tu auras 20 coups de bâton.
D'accord. D'accord, a dit Martin.
La princesse a fermé les yeux. 1, 2, 3, 4.
Martin est sorti et il s'est dit, les 120 pièces du château, c'est pas la peine. Il est sorti dans le parc. Oh, les 240 buissons non plus, elle m'a trouvé dans la gueule du poisson. Alors, les 360 arbres, c'est nul comme cachette. Il a regardé la rivière du château.
Et puis, il s'est rappelé la plume de l'aigle. Alors, il a ouvert son baluchon, il a sorti la plume, il a craqué une allumette, il a brûlé la plume. Et du haut du ciel est descendu, les ailes déployées, le grand aigle qui est venu se poser devant le jeune homme et qui lui a dit, eh bien, tu as besoin de moi, je suis là. Ah, il faut que tu me caches pour que la princesse ne me trouve pas. Eh bien, grimpe sur mon dos. Martin a grimpé sur le dos de l'aigle, il s'est accroché au son cou. L'aigle s'est envolé et il est monté dans le ciel. Oh, oh, si haut qu'on ne le voyait plus, c'était un point minuscule. 98, 99, 100. La princesse a ouvert les yeux. Elle s'est dit, oh là là, ce garçon-là, il est trop malin pour se cacher dans une de mes salles de mon château. Elle est sortie directement dans le parc. Les 240 buissons, les 360 arbres, pfff, la rivière du château. Non. Mais où est-ce qu'il pouvait bien être? La princesse a regardé autour d'elle, elle ne l'a pas vu. Ce garçon est vraiment très, très, très malin. Peut-être c'est le mari qu'il me faut. Puis la princesse est rentrée dans sa chambre. Elle a regardé dans son miroir magique en pensant au jeune homme. Elle a regardé une fois. Elle ne l'a pas vu. Ah! Elle a regardé une seconde fois. Elle a vu tout en haut, très loin dans le ciel. Elle a vu un aigle qui portait sur son dos un jeune homme avec un bonnet à pompons. Elle savait où il était. Et le lendemain matin, à midi, Martin est arrivé tout fier. La princesse était belle, belle comme le soleil. Elle lui a souri, elle lui a dit « Je sais où tu étais. Tu étais sur le dos d'un aigle, tout là-haut dans le ciel. » « Ah, ah bah oui. Alors je vais recevoir 20 coups de bâton et je ne t'épouserai pas. » « Attends, attends. C'était quand même une très bonne cachette. Bien meilleure que celle qu'ont trouvée tous les autres jeunes gens qui se sont présentés avant toi. Allez. » Je te laisse une troisième chance, mais ce sera la dernière. Tu as jusqu'à demain midi pour te cacher. Si je te trouve, alors tu auras 30 coups de bâton. Mais si je ne te trouve pas, dans ce cas-là, tu m'épouses. D'accord, d'accord. La princesse a fermé les yeux. Elle a commencé à compter. 1, 2... 3,
4. Martin est sorti. Il est allé dans le jardin. Et là, il a sorti le cheveu du roi des fourmis. Il a craqué une allumette, il l'a brûlée. Ah, devant lui, il y avait une fourmi qui tout d'un coup est devenue grande, grande comme un homme. Une fourmi à tête d'homme. C'était le roi des fourmis qui lui a dit « Mon ami, tu as besoin de moi. Que veux-tu ? » Ah, écoute, il faut que tu me caches, mais la princesse, elle me trouve toujours. Elle m'a trouvé dans la rivière, elle m'a trouvé dans les airs. « Ne t'en fais pas, lui a dit le roi des fourmis. » Il a sifflé, il a appelé toutes les fourmis de la terre. Il leur a demandé de creuser un tunnel qui irait sous le château jusqu'à la chambre de la princesse. Il a appris à Martin les formules qui lui permettaient de devenir aussi petit qu'une fourmi et celles qui lui permettaient de devenir aussi grand qu'un homme. Et puis Martin est devenu aussi petit qu'une fourmi. Il s'est engagé dans le tunnel que les fourmis avaient creusé. Il a marché et s'est retrouvé dans la chambre de la princesse. Et là, il a attendu. La princesse avait cherché le jeune homme partout. Elle ne l'avait pas trouvé. Elle a même regardé dans les salles du château. Et puis derrière les buissons, et puis derrière les arbres, elle ne le trouvait nulle part. Alors elle est rentrée dans sa chambre. Là, la fourmi Martin en a profité pour grimper le long de son cou et se cacher dans ses cheveux. La princesse a regardé dans son miroir magique. Elle n'a rien vu. Elle a regardé une seconde fois. Elle n'a rien vu. Mais quand elle a regardé pour la troisième fois, elle a vu son cœur. Son cœur qui battait. La princesse s'est dit « Quand je pense à ce jeune homme, si je vois mon propre cœur, c'est que ce jeune homme est entré dans mon cœur. » Elle a été tellement émue qu'elle a laissé tomber le miroir qui s'est brisé en 1000 morceaux. « Où es-tu ? Où es-tu, mon amour ?» Et à ce moment-là, elle a entendu la voix du jeune homme qui lui disait « Mais je suis là !» La princesse s'est retournée derrière elle. Et il y avait Martin qui lui souriait et qui lui tendait les bras. Et c'est comme ça que le jeune homme a épousé la princesse. Mais l'histoire dit que le soir des noces, sur l'oreiller, la princesse a demandé à son nouveau mari « Mais comment, où étais-tu caché la troisième fois ?» Martin a souri, lui a dit « Écoute, si tu me dis comment tu as fait pour me trouver les deux premières fois, alors moi, je te dirai où j'étais cachée la troisième fois. » La princesse n'avait pas très envie d'avouer qu'elle avait triché avec un miroir magique. Alors elle a gardé le silence. Chacun des deux a gardé son secret et c'est peut-être pour ça qu'ils ont vécu longtemps très heureux.
Pardonnez-moi, madame, je cherche mon chemin. N'auriez-vous pas vu ce petit bout de rêve? Celui d'où je viens, j'y étais vraiment bien. Maintenant, il me revient comme cet extase brève. Le soleil brillait fort et les oiseaux chantaient. Les gens savaient parler et surtout s'écouter. Je me souviens d'une ville au sourire bienveillant où régnait dans les rues l'odeur de liberté. Bien sûr, ni Dieu ni maître, mais y a un peuple tolérant. On a fait le sens de la responsabilité. Égalité des chances, les chats faisaient des chiens. On mangeait à nous le faim et tout allait très bien.
Le bonheur étant le prix, alors cours y vite, le bonheur étant le prix, alors cours y vite, il va filer. Le bonheur étant le prix, alors cours y vite, le bonheur étant le prix.
<t'->
notre pause musicale avec douche froide. Et maintenant, reprenons le cours de nos histoires et des objets magiques. C'est l'histoire d'un paysan qui s'appelle Jean. Jean est très pauvre, il loue à un riche seigneur une misérable ferme où il habite avec sa femme, Marie, et un petit champ qu'il cultive péniblement parce que la terre est très caillouteuse. Et voilà qu'un jour, en bêchant son champ, Jean sent quelque chose de dur. Il pense que c'est un caillou, il creuse un peu. Eh bien non, ce n'est pas un caillou, c'est le bord d'un tonneau. Jean va chercher sa pioche, il déterre le tonneau, il voit qu'il a l'air en bon état, c'est un très grand tonneau qui est presque aussi haut que lui. Donc il le fait rouler, puis il appelle sa femme, il lui dit « Hé Marie, regarde donc ce que j'ai trouvé dans le champ. » « Ah bah ça alors, c'est un tonneau, » dit Marie, « mais il a l'air bien, je vais chercher la brosse. » Elle va chercher la brosse, elle commence à astiquer le tonneau tellement fort qu'à un moment la brosse lui échappe des mains, bling, elle tombe dans le tonneau. Alors, bling, voilà que le tonneau est rempli de brosses. De brosses qui sont toutes identiques à celles que Marie a laissées tomber dans le tonneau. Elles les sortent une par une, 2, 3, 4, 99, 100. Il y a 100 brosses. Ben ça alors? Alors Marie laisse tomber une brosse dans le tonneau. Bling, bling, de nouveau, 100 brosses. Oh, ben, alors elle prend deux brosses, elle les laisse tomber dans le tonneau. Bling, rien ne se passe. Il faut qu'il y ait un seul objet pour que le tonneau le multiplie par 100. Bah dis donc, bah qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces brosses? Bah t'as qu'à aller les vendre au marché demain. Ah bah oui, bonne idée. Et puis Marie va chercher du riz et elle met un grain de riz dans le tonneau. Bling, 100 grains de riz. Et il passe l'après-midi à multiplier les grains de riz. Et puis le lendemain matin, Jean s'en va vendre les brosses au marché tandis que Marie invite tous les voisins pour fêter ça. Et on fait ça, et puis on mange du riz, et tous les voisins se demandent « Mais comment vous avez fait ?» Parce que tout le monde sait que Marie et Jean sont tellement pauvres qu'ils arrivent à peine à se nourrir eux-mêmes, alors nourrir tous les voisins. Et Marie et Jean expliquent qu'ils ont trouvé dans leur champ un tonneau magique, que ce tonneau multiplie par 100 si on met un objet à l'intérieur. Seulement, la nouvelle se répand et elle arrive jusqu'au propriétaire du champ. Le lendemain matin, il s'en vient frapper chez Jean et Marie. Alors Jean, il paraît que tu as trouvé un tonneau magique. Ah bah ouais, hier en bêchant le champ, j'ai trouvé un tonneau magique. Mais dis-moi, tu l'as trouvé dans le champ que je te loue? Bah ouais. Alors ce tonneau est à moi, puisque la terre est à moi. Ah bah pardon, non, pas du tout, ce champ moi je le loue et si je cultive des carottes, bah les carottes elles sont à moi, alors le tonneau, bah il est à moi. Ah, erreur, la terre est à moi, le tonneau est à moi. Voilà Jean et son propriétaire qui se disputent, les voisins s'en mêlent, puis on décide de porter l'affaire devant le préfet. Le préfet se fait expliquer l'histoire, il demande qu'on lui amène le tonneau. Il jette une pièce à l'intérieur du tonneau. Bling, bling, 100 pièces d'or apparaissent. Oh, le préfet a vite fait de réfléchir. Il partage les 100 pièces d'or en deux tas égaux. Il en donna au propriétaire, à Jean. Et il déclare que par mesure confiscatoire, c'est lui qui conserve l'objet du délit, le tonneau. Jean est tellement content d'avoir 50 pièces d'or qu'il repart heureux. Le propriétaire émet très bien quelques protestations, mais lui aussi, les 50 pièces d'or lui font oublier le reste et ils s'en vont. Le préfet ramène le tonneau chez lui. Il l'installe sur la terrasse et il file chercher le lingot d'or qu'il garde dans son coffre. Il se dit « Je vais avoir 100 lingots d'or, je serai le plus riche de toute la contrée, le plus riche de toute la France ». Pendant qu'il est parti chercher son lingot, il y a son vieux père de 90 ans qui se réveille de sa sieste. Il s'en va prendre le frais sur la terrasse. Et là, il voit le tonneau, ce grand tonneau. Alors, il essaie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais le tonneau est tellement haut qu'il n'arrive pas à voir par-dessus le bord. Il prend un rondin, il monte dessus, il se penche, hein, il se penche tellement que plouf, il perd l'équilibre, il tombe dans le tonneau, bling, vlang. Le préfet entend un bruit épouvantable, il se précipite, et là, qu'est-ce qu'il voit ? Le tonneau qui a éclaté en morceaux et 100 vieillards, tous identiques, qui sont en train de se disputer pour savoir lequel a fait éclater le tonneau. Mais lequel est mon père ? Mais c'est moi ! Ah, l'histoire dit que le préfet n'a pas eu trop de tout son lingot d'or pour nourrir, entretenir tous ces vieillards jusqu'à leur mort. Et voilà, c'est l'histoire du tonneau magique. Eh bien, maintenant, une autre histoire de magie. C'est une histoire indienne. Il y avait une fois un menuisier qui s'appelait Dinu. Dinu était un artisan très habile. Mais voilà, dans son village, tout le monde était tellement pauvre que les gens n'avaient même pas de quoi acheter à manger. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de quoi acheter des meubles. Personne n'avait de meubles et personne n'achetait les beaux meubles que Dinu fabriquait. Un jour, comme il ne vendait rien et qu'il n'avait plus de quoi se nourrir, il a décidé de quitter son village pour essayer de trouver du travail ailleurs. Il a emballé ses outils, il a pris quelques provisions, il est parti. Il a marché. Il a marché toute la journée. Et le soir, il s'est arrêté pour manger au bord d'une rivière. Il s'est assis au pied d'un arbre, il a sorti une galette. Et au moment où il portait la première bouchée de galette à sa bouche, il a entendu une voix qui venait de la rivière et qui lui disait « Dinu, pense à moi, moi aussi j'ai faim !» Il a regardé autour de lui, mais la voix avait l'air de venir de la rivière et s'est dit que sans doute c'était le dieu de la rivière. Il a partagé sa galette en deux et il a jeté une moitié dans la rivière. Ah, merci, Dinu, n'aie pas peur, tu es le premier qui me donne à manger et pourtant ça fait bien longtemps que je suis là. Intrigué, le menuisier s'est approché de la rivière. Il a dit, mais qui es-tu ?
Je suis Katola, le petit lit. J'étais le trône d'un roi. Et à la mort de ce roi, ses héritiers m'ont jeté dans la rivière ainsi que le corps de leur père. Le corps a été mangé par les poissons et les crocodiles. Moi, je suis resté là. Et je vaux très cher, il faut que tu me repêches et tu verras.
Dinu est entré dans la rivière. Il avait de l'eau jusqu'au torse. Il a de la main, il a tâté dans les profondeurs de la rivière. Il a fini par sentir quelque chose. Et très péniblement, il a réussi à tirer le lit sur la rive. C'était un beau petit lit en bois précieux, très finement ouvragé. Oh, bah, oui, là, il faisait nuit, mais dès le lendemain matin, il a remis le lit en état. Et puis, le lit lui a dit, écoute, tu vas aller au marché, tu vas me mettre en vente, et si quelqu'un te demande combien je vaux, tu lui diras qu'il n'a qu'à s'adresser à moi. Dinu a obéi, il a fait ce que le lit lui disait, il est allé au marché, il s'est installé à côté du lit et a attendu. Seulement voilà, les gens passaient, il y en a beaucoup qui s'arrêtaient pour admirer le bois précieux, les sculptures très délicates, mais personne n'osait même demander le prix du lit, chacun savait que ce serait sûrement bien au-dessus de ce qu'il pouvait payer. Dinu commençait à désespérer. Le jour était sur le point de faire place à la nuit quand le roi est arrivé sur son cheval blanc. Il lui a dit « Alors, menuisier, je vois que depuis ce matin, tu n'as toujours pas vendu ce joli petit lit. Combien en veux-tu ? Je te donnerai la somme que tu me demanderas. » « Ah ben, a dit Dinu, demandez donc au lit lui-même combien il vaut. » Le roi amusé, descendu de son cheval, il a dit « Alors, petit lit, parle donc et quelle est ta valeur ?» Je vaux 100 000 roupies, a déclaré le petit lit. 100 000 roupies, ma foi, mais quel lit es-tu donc ? Même si tu étais en or massif, tu ne vaudrais pas autant. Emmenez-moi au palais et vous verrez. Eh bien, très bien, nous allons voir. Le roi a fait donner à Dinu les 100 000 roupies. Et puis il ordonnait qu'on emmène le lit au château. Et là, le lit a dit au roi, tu vas m'installer dans une pièce vide et cette nuit tu verras pourquoi je vaux aussi cher. Le roi a installé le lit dans une pièce vide, mais il s'est couché dessus, le lit était confortable. Mais le roi ne voulait pas dormir, il avait peur de rater un événement extraordinaire. À minuit, il a entendu un des pieds du lit qui s'adressait aux trois autres et qui disait « Ah, mes frères, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour. Est-ce que vous pouvez soutenir le lit à vous trois ?»« Mais oui, mais oui, mais oui. » Le pied a roulé, il a sauté et est sorti de la pièce. Et quelques temps plus tard, il est revenu. « Alors, mon frère, qu'est-ce que tu as vu dehors ?» ont demandé les trois autres pieds. Oh, le roi avait les oreilles grandes ouvertes. Ah, j'ai vu une tigresse qui feulait sur le bord du fleuve. Sur l'eau, il y avait le cadavre d'un buffle qui flottait. La tigresse est morte de faim. Elle m'a dit que si quelqu'un repêchait le cadavre du buffle et lui donnait à manger, alors elle lui accorderait sa protection. Ah. À mon tour d'aller faire un tour, a dit le deuxième pied. Et lui aussi a roulé, a sauté, il est sorti de la pièce. Puis il est revenu un peu plus tard. Il a dit, moi, j'ai vu un ogre qui venait par ici. Il a dit que tous les jours, le roi lui faisait apporter un repas fastueux et qu'aujourd'hui, comme le roi avait dépensé tout son argent pour acheter un petit lit, eh bien, il n'avait pas eu son repas. Alors, il venait pour dévorer le roi. Moi, le pied du lit, j'ai tapé sur la tête de l'ogre tellement fort qu'il a tourné les talons, il est parti, mais il a dit qu'il allait bientôt revenir. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Et puis, le troisième pied, à son tour, est allé se promener. À son retour, il a raconté. « Ah, j'ai vu une vieille femme qui pleure à côté du corps de son fils. Elle a dit qu'il fallait que quelqu'un soulève le corps de son fils et le plonge 7 fois dans l'eau du fleuve, qu'alors son fils reviendrait à la vie et qu'elle indiquerait à cette personne l'emplacement d'un trésor. » Un trésor. Oh. Puis le quatrième pied, à son tour, est allé se promener. Il a dit, « Oh mes frères, j'ai vu un grand serpent noir qui s'est glissé dans la pièce et qui s'est levé dans une des chaussures du roi. Demain matin, s'il ne fait pas attention, eh bien, il sera piqué par le serpent. » Puis ça a été le silence. Le roi restait là, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Les pieds ne parlaient plus, le roi s'est rendu compte que le lit s'était endormi. Alors il s'est levé, il a sorti son sabre, puis il a secoué ses chaussures, il a vu un grand serpent noir en sortir, et d'un grand coup de sabre, il a coupé le serpent en morceaux. Puis il est sorti de la pièce, il a marché jusqu'au fleuve, et il a vu la tigresse qui feulait sur le bord du fleuve. Il est rentré dans l'eau, il a tiré le cadavre du buffle jusqu'à la tigresse. La tigresse s'est jetée dessus, elle l'a dévorée, puis elle a dit au roi, « Eh bien, maintenant, je te dois un service. Que puis-je faire pour toi ?»« Eh, viens avec moi, » lui a dit le roi. Ils ont marché jusqu'aux abords de la ville, ils se sont cachés, et ils ont attendu. Et à l'aube, ils ont vu l'ogre arriver. L'ogre qui venait pour dévorer le roi. Le roi a fait un signe à la tigresse. La tigresse a sauté sur l'ogre, et d'un grand coup de griffe, elle l'a tué. Le roi était débarrassé de cet ennemi. Puis, elle a marché jusqu'à la rivière. Et là, il a vu la vieille femme qui pleurait près de l'arbre et à côté du corps de son fils. Le roi a soulevé le corps du jeune homme, il l'a mis sur son dos, il a marché jusqu'au fleuve, il est rentré dans l'eau et puis il a plongé 7 fois le corps du jeune homme dans l'eau. Ah, le fils est revenu à la vie. La vieille femme était folle de joie. Elle a dit au roi, tu m'as sauvé, tu as sauvé mon fils, viens, je vais te montrer où est le trésor. Elle l'a emmené jusqu'à un grand banian et lui a dit, creuse ici. Le roi a pris la pioche, il a creusé, il a trouvé un coffre de bois et de cuivre. Quand il a soulevé le couvercle à l'intérieur, il y avait des centaines, des milliers de pièces d'or. Le roi est retourné dans son palais et le lendemain, il a fait appeler Dinou, le menuisier, qui était rentré dans son village. Il lui a dit « Écoute ce lit que tu m'as vendu. Eh bien, il est beaucoup plus précieux que ce que je te l'ai payé. Grâce à lui, j'ai évité des dangers et j'ai obtenu un trésor. Ce trésor, nous allons le partager. » Le roi a fait amener le coffre de cuivre et de bois avec Dinou. Ils ont sorti toutes les pièces d'or et les ont comptées. Le roi a fait deux parts égales. Elle a donné la moitié au menuisier, l'autre moitié, il l'a gardée pour lui. Et c'est ainsi que Dinou est retourné dans son village plus riche que ce qu'il avait jamais pu même imaginer. On dit qu'il a continué à fabriquer des meubles juste pour le plaisir, et que ces meubles, il en faisait cadeau aux gens de son village. Cette histoire est terminée. Et notre émission de même. Direct sur Radio Saféréole 94.2, le dernier mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h et podcastable sur le site radiosafé.com.
C'est l'histoire d'un gars lambda, un mec qui est comme vous et moi, avec une vie ordinaire, pas qu'un petit peu solitaire. Il est fraîchement embauché, un boulot pas mal payé, employé de